Choisir la vie. Choisir un boulot. Choisir une carrière. Choisir une famille. Choisir une putain de télé à la con. Choisir des machines à laver, des bagnoles, des platines laser, des ouvre-boîtes électroniques. Choisir son survêt et le sac qui va avec. Choisir son canapé avec les deux fauteuils, le tout à crédit avec un choix de tissu de merde. Choisir de s'affaler sur ce putain de canapé et se lobotomiser au jeu télé en se bourrant de mal d'eau.
Troupeau, chaque semaine de 18h à 19h sur Radio Centrafrique.
Ne me regardez pas, j'existe plus. C'est pas moi, c'est mon fantôme qui passe. Adieu.
Lutte sociale, info du pays, autodéfense populaire et politique politique. Il est l'heure de quitter le troupeau et de rejoindre la meute.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Ciao Troupeau. Vous écoutez Radio Centrafrique, il est 18h02, le 6 novembre, avant-dernier jour de lutte contre l'enquête publique de Saint-Victor. Si vous n'avez pas encore lutté, dépêchez-vous, il ne reste que demain. Non au transpo géant, ici, ce soir. D'autres thèmes pour vous, tout aussi révoltants, mais moins proches de nous, et pourtant d'une actualité étonnante. Les minorités musulmanes, persécutées dans de nombreux endroits du monde avec ce climat social tendu et méfiant, seront au centre de nos préoccupations avec notre invité du jour, Gilles Margeran, qui nous en dira un peu plus long de ce côté-là. Et notre invité virtuel ne sera personne d'autre que Grégoire Souchet, qui nous propose un petit retour sur la visite d'un centre de rétention pour étrangers, alors qu'il prépare un reportage à ce sujet. Regard croisé sur une même réalité. Ciao troupeau, on est ensemble en direct jusqu'à 7h.
C'est l'heure de quitter le troupeau et de rejoindre la meute.
On est en ligne tout de suite avec Grégoire Souchet, ancien journaliste à Radio Centrafrique, qui aujourd'hui est allé visiter le centre de rétention administrative de Toulouse-Cornebarieux. Un centre de rétention administrative, c'est une sorte de prison réservée aux étrangers en instance d'expulsion. Et Grégoire a eu la chance de pouvoir visiter ce centre de rétention, chance qui n'est pas donnée à tout le monde, puisque personne ne peut rentrer dans les centres de rétention pour aller les visiter, hormis les parlementaires et certains journalistes qui les accompagnent. Salut Grégoire.
Salut Clément.
Du coup, tu voulais revenir un petit peu sur cette visite qui s'est passée aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire déjà dans quel cadre tu as visité ce centre de rétention ?
Tout à fait. En tant que journaliste, j'étais appelé par une asso qui s'appelle le Cercle des Voisins, qui intervient elle aussi dans le centre pour accompagner les personnes sans papier en instance d'expulsion et qui essaie de faire un suivi avec eux. Et par leur biais, du coup, s'est organisée une visite du centre par l'un des députés de la France Insoumise, Michel Larive, député de l'Ariège. Et plutôt qu'inviter la dépêche du midi, comme le font traditionnellement les parlementaires du PS, eh bien, ils ont préféré choisir Reporter, en l'occurrence moi pour Bastamag, pour les accompagner. Raconter un petit peu différemment de ce que fait la dépêche, ce qui se passe dedans.
Ok, très bien. Donc du coup, le centre de rétention de Cornebarieux, il est sur le bout des pistes de l'aéroport de Toulouse. Voilà, c'est une petite prison en fait, hein, puisqu'il y a moins de 100 places dedans. Il me semble que c'est...
Il y a 126 places exactement.
126 places, d'accord.
Avec 90 places pour le secteur hommes et puis le reste réparti pour les femmes ou ce qu'on appelle les familles, donc là où il y a des couples ou des couples avec enfants. Alors là, en l'occurrence, il y avait juste des couples.
Ok, d'accord, ça marche. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble? Et puis, comment on y rentre peut-être faire un petit tour d'horizon. Toi, tu as pu visiter l'intégralité du centre ou presque?
Ouais, on a toujours été accompagné par le commandant du centre, son brigadier qui tenait les portes, et puis donc le député et moi-même.
Il faut préciser peut-être que les centres de rétention sont gardés par la police nationale et pas par l'administration pénitentiaire, puisqu'il ne s'agit pas d'une prison à proprement parler, il s'agit d'un centre de rétention.
tout se joue là-dessus, en fait. C'est-à-dire qu'on parle bien de rétention et pas de détention. C'est des personnes qui sont en milieu fermé, mais j'insiste bien, hein, les responsables, que c'est pas une prison. Effectivement, il y a une certaine possibilité de circulation par zone. Il y a des espaces entre guillemets ouverts, mais ça reste sectorisé. Et tout est, en fait, à l'intérieur, pensé comme ça. Et tout ressemble pourtant à une prison.
C'est oui, c'est ça. C'est la distinction prison et centre de rétention est uniquement juridique, elle n'est pas physique.
Bah, c'est assez particulier, en fait. Alors nous, on a eu un peu la visite type, mais par exemple, à aucun moment, on a pu prendre des photos, on a pu prendre des enregistrements sonores, pour des raisons de sécurité. On n'a pas pu non plus discuter avec les personnes qui sont en rétention par question de temps, parce que l'agenda du député était très chargé, et puis surtout, on était accompagnés par les responsables, et ça rentrait pas dans le cadre, en fait. On a quand même pu parler un petit peu avec la CIMAD, qui est une association qui accompagne juridiquement les personnes sans papier, mais c'est resté très administratif en fait comme visite. Et ce qui est étonnant, c'est comment, en fait, tout est pensé en termes de sécurité. C'est-à-dire que chez les hommes, on va mettre des grilles aux fenêtres pour éviter que potentiellement ils s'attachent et puis puissent se pendre. Les télévisions sont encadrées et dans des il y a des salles télé, mais c'est dans un sorte de bloc, et la télécommande elle-même est mise dans un bloc, et on peut juste changer les chaînes pour éviter qu'ils se jettent les télécommandes dessus. Dans le réfectoire, il n'y a pas de dossier au siège pour pas qu'ils les arrachent et qu'ils se les jettent dessus. Enfin voilà, tout est pensé dans une logique uniquement de sécurité. Évidemment, là-dedans, le confort et le bien-être, bon, c'est un peu secondaire. Alors, c'est pas des geôles, hein. C'est-à-dire que il y a les commodités de base, il y a des toilettes, il y a du PQ, c'est chauffé, ça s'est amélioré depuis certaines années où il y a eu des trucs vraiment très très compliqués à Toulouse. Là, on peut dire que c'est pas inhumain, mais ce qui est inhumain, c'est le système lui-même, c'est-à-dire qu'on place des gens là-dedans en attente de les expulser. Mais parfois aussi, juste, on les libère, parce qu'en fait, les policiers sont allés trop vite, il y a une erreur dans la procédure.
Une petite précision tout de suite, en fait, les personnes qui se retrouvent en centre de rétention sont des personnes qui sont clandestines en France, c'est-à-dire qui n'ont pas de papier, pas de titre de séjour, et donc c'est au moment d'un contrôle d'identité dans la rue, ou bien alors une arrestation directement en préfecture, qui vont être placées en centre de rétention pour une durée maximale de 45 jours, à savoir que c'est une période qui est augmentée de temps en temps par des lois sécuritaires répressives anti-migratoires, disons. Et donc les personnes sont systématiquement relâchées au bout de 45 jours si elles n'ont pas pu être expulsées auparavant. Et donc tu t'en venais à un exemple peut-être sur...
Voilà, typiquement, tout le jeu, c'est il y a deux jours en gros de garde à vue, et puis ensuite il y a le juge des libertés qui doit se prononcer une première fois pour savoir si on met la personne en rétention, si on la met assignée à résidence ou si on n'y reproche rien. Et ensuite, c'est la course, en gros, pour expulser la personne. Avant, c'est 45 jours, sinon on la relâche. C'est un peu ça le principe, en fait. Sauf que le problème, c'est que généralement, ça traîne des pieds à la préfecture, et ça traîne des pieds dans les pays d'accueil, qui n'ont pas forcément envie de recevoir des personnes expulsées. Et donc, du coup, là-dedans, les personnes se retrouvent dans ce centre de rétention, donc dans des conditions quand même compliquées ou d'existence, sans savoir trop ce qui va leur arriver. Et elles passent une deuxième fois au bout d'un moment devant le juge des libertés, qui décide, oui ou non, de prolonger, et donc ça peut aller jusqu'au total 45 jours. Là, actuellement, on avait le cas, dans le centre de rétention que nous a rapporté la CIMAD, de quelqu'un qui a un rendez-vous à la préfecture pour avoir ses papiers, c'est-à-dire pour faire son renouvellement pour faire sa demande de droit d'asile, mais qui a quand même été mis en centre de rétention administratif avant, histoire de le garder au frais. Et en fait, là, il y a vraiment en ce moment un truc très particulier, c'est que tous les CRA de France, tous les centres de rétention administrative du pays, sont en surcharge. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu les attentats à Marseille, Et suite aux attentats à Marseille, la personne qui a donc tué ces deux jeunes femmes aurait dû à ce moment-là être placée en rétention, mais elle avait été, suite à en gros des petites approximations administratives, elle avait été mise en liberté. Et donc suite à ça, il y a le préfet du Rhône qui a sauté sur décision du ministère de l'Intérieur. Et donc partout, toutes les préfectures sont complètement à fond. Et ce qui se passait avant, c'était qu'en gros, il y avait une tolérance, qu'en gros, on savait que la personne, on allait de toute façon pas la reconduire parce que le pays refusait. Bon, ben, on la libérait au bout de la deuxième fois. Et ben là, non. Là, on met tout le monde en rétention. Y compris donc même des personnes qui ont nationalité française, hein, ça arrivait il n'y a pas très longtemps. Et on les relâche le plus tard possible. Le gros problème, c'est que le directeur du centre dit, bah, c'est simple, moi je peux faire face à 50 personnes dans le centre avec l'effectif que j'ai, mais en fait quand j'en ai plus, comment je fais? Parce qu'il faut conduire les personnes, les allers-retours entre le centre de rétention et le centre de Toulouse, donc entre l'aéroport Toulouse-Blagnac et le centre de Toulouse, je ne sais pas si vous voyez la distance, ça fait 20-25 minutes, avec 3 policiers à chaque fois, plus les personnes qu'il faut conduire chez les médecins, parce que bah, y en a qui ont des troubles psychologiques, il y en a qui ont des médicaments, il y en a qui ont des problèmes de toxicologie, et donc de tout ça, eh ben, la fin, ils nous disent eux-mêmes, les responsables, qu'ils sont au bord de l'explosion.
Alors ne plaignons pas non plus les policiers qui tiennent ces centres, si les premières victimes de ces centres, c'est quand même les personnes qui y sont enfermées, puisque
ah
c'est
oui,
des
oui.
prisons.
Mais après, c'est sûr. Non, bien sûr. Qu'en gros, la situation même des centres en eux-mêmes, aujourd'hui, est vraiment dramatique. C'est au bord de l'explosion. Et d'habitude, c'est pas les premiers à dire on fait notre métier avec ça. Non, là, ils disent c'est vraiment grave, y compris pour. Alors, faut même pas imaginer le problème qui se pose pour les personnes sans papier dans les centres. Il y a eu quelques années l'accusation comme quoi il y avait des cafards, choses comme ça. Nous, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'en fait, la bouffe est faite à l'extérieur et elle arrive en gros en tout empaqueté et tout. Donc, il n'y a plus de problème apparemment sanitaire majeur, en tout cas de ce qu'on a vu. On ne s'est pas quand même attardé trop dans les chambres des gens qui occupaient, à la fois pour ne pas les déranger. Et puis, ils insistaient bien pour dire que oui, on ne va quand même pas essayer de multiplier les contacts avec les policiers parce que ça excite les gens. Et du coup, ça provoque des situations de tension, choses comme ça. Enfin, en gros, ils essaient de gérer quoi le truc et ils essaient de limiter le maximum les contacts. Mais en gros, les gens, on les voit pas. On passe devant, on leur dit bonjour, mais on n'a pas le temps, on n'a pas pris le temps de s'arrêter pour discuter avec eux, sachant qu'en plus, ils parlent pas tous français, évidemment. Donc, c'est même en étant à l'intérieur, ce qui est réservé aux députés, et maintenant ils ont le droit avec un journaliste, même là en fait on n'a pas accès à tout. Même là on ne sait pas tout ce qui se passe à l'intérieur. Et donc c'est très compliqué de communiquer sur les conditions de vie en fait des sans-papiers en France, parce que bah, c'est un flou total quoi.
Ciao troupeau!
Et voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Ciao Troupeau. C'était une interview donc qui a été menée il y a quelques minutes avec Grégoire Souchet. Donc c'est pas du direct, mais presque du direct. Donc c'est bien aujourd'hui qu'il a visité le centre de rétention de Cornebarieux. Voilà, merci à lui pour ce témoignage. Son enquête va être publiée dans Bastamag sur le site Bastamag d'ici quelques jours. Donc restez à l'affût si vous connaissez ce site. Sinon, vous tapez sur internet et vous le trouverez très facilement. Dans quelques jours, ce sera diffusé. Le centre de rétention de Cornebarieux, c'est pas le seul en France, il y en a une bonne grosse vingtaine, et le plus proche de Saint-Afrique, c'est plutôt celui de Sète d'ailleurs, qui est aussi un centre de rétention très actif, puisqu'il n'y en a pas à Montpellier, donc du coup c'est toute l'agglomération montpelliéraine qui se retrouve en tout cas au niveau du centre de rétention de Sète, quoi. Voilà.
Ok, merci beaucoup Clément pour avoir recueilli ce témoignage tout frais. On sent encore l'émotion de Grégoire, hein, qui a l'air de sortir tout juste de ça, et puis... Bah, cette phrase-là, il dit, en parlant des conditions de rétention, il me semble, c'est pas inhumain, ce qui est inhumain, c'est le système. Et au travers de tes interventions et puis des discussions qu'on a pu avoir, tu connais un peu ce sujet et tout, et c'est vrai que c'est complètement inhumain comme système pour quelqu'un qui est à l'extérieur. En fait, même l'intitulé, CERA, Centre de Rétention Administrative, c'est assez interpellant, je trouve, comme titre. C'est-à-dire que quelqu'un peut être enfermé pour des raisons administratives.
En fait, ouais, c'est assez intéressant. Les centres de rétention administratifs, ils sont nés dans les années 80. C'est Mitterrand qui les a légalisés parce qu'il y a des pratiques policières sur le port de Marseille pour enfermer des personnes qui étaient en instance d'expulsion. Il n'y avait pas de cadre législatif à l'époque et du coup, les flics les mettaient dans des hangars en attendant qu'ils aient un bateau ou un avion pour le Maghreb généralement. Et donc, du coup, c'est Mitterrand. Du coup, il y a eu gros scandale médiatique, politico-médiatique vis-à-vis de ce truc-là. Et donc, Mitterrand a fait ah bah attendez, il n'y a pas de loi qui encadre ça, on va en faire une, comme ça on peut continuer à faire des centres de rétention. Du coup, merci la gauche encore une fois pour cette jolie démarche. Et donc les centres de rétention administrative, ouais, c'est vraiment ça en fait, c'est des personnes qui ont
c'est vraiment juste des gens qui ont des gros problèmes avec l'administration.
Non, c'est des gens qui sont juste sans papier, en fait, qui sont soit rentrés illégalement en France, soit qui sont rentrés légalement et qui ont ensuite perdu leur titre de séjour. Notamment, c'est le cas de beaucoup d'étudiants qui rentrent avec un visa étudiant et puis qui redoublent une année, du coup le visa n'est pas renouvelé, du coup ils se retrouvent sans papier, ils restent en France parce que ça fait 3 ans qu'ils étudient en France, ils se retrouvent sans papier, ils se font arrêter et ils sont placés en centre de rétention alors que du coup ils ont pas d'autres délits en fait, ou d'autres crimes ou d'autres infractions que de ne pas avoir les papiers. Donc c'est souvent ce que disent les personnes qui sont en centre de rétention, c'est qu'ils comprennent pas en fait pourquoi ils sont enfermés, quoi. Ils comprennent non mais c'est vrai, ils comprennent pas, c'est vraiment, c'est un centre de rétention administrative, c'est la rétention qui est administrative, c'est pas le centre qui est administrative. Et c'est le préfet en fait qui place les gens dans ces centres sans que la justice n'ait prévu de peine. Enfin, c'est pas une peine, quoi. C'est vraiment une rétention administrative, comme il existe un peu partout dans le monde, notamment beaucoup en Israël contre les opposants politiques, où il y a de la détention là pour le coup administrative, mais aussi dans beaucoup de pays en Europe. Et d'ailleurs, la rétention administrative a été en tout cas est établie au niveau de l'Europe, quoi. L'Union européenne réglemente la rétention administrative et essaye d'harmoniser toutes les législations. Pour en revenir aux personnes qui sont retenues...
Je pense que tu as quelques témoignages à nous faire partager des exemples.
Ouais, c'est ça. En fait, j'ai fait partie d'une émission qui se déroulait à Canal Sud à Toulouse, où on parlait chaque mois, donc c'était une mensuelle, de problèmes autour de l'immigration et de la répression de l'immigration. Et donc, du coup, on avait réussi à obtenir pas mal de témoignages du centre de rétention administratif de Cornebarieux, et les témoignages qu'on s'apprête à écouter là ont été récoltés en décembre 2016, ça fait donc un an et demi maintenant. Ça n'a pas beaucoup changé depuis. Oh.
Mură pereții din clubul nea în penitenciare. Boxele de bază din Porbaga sunt atetare. Intri pe bulevard, se aude din distanță. Muzică pentru băieți, nu pentru orice zdreanță. Sunt și Tudorie cu băieții din brigadă. Am inspirat o generație întreagă. Am pus pe bandă vorbele mele de stradă.
Mardi dernier, j'ai appelé sur les cabines téléphoniques du centre de rétention de Cornebarieux, c'est à côté de Toulouse, et c'est un couple originaire de Roumanie qui m'a répondu. Ils avaient été arrêtés la veille au soir, donc lundi soir.
J'étais à la déchetterie à Lavour. Là-bas, parti pour que vienne la gendarmerie. Marcher comme ça dans la bosque, 2-3 heures, je ne sais pas combien de temps. Et après, dans la route, la gendarmerie m'a trouvé et vite suivi à la voiture pour partir, je sais pas, à la poste de Saint-Sulpice. Là-bas, rester un peu. Et de Saint-Sulpice, parti après à Lavour, faire garde-vous. Et après, de garde-vous, pour faire l'audition, tout comme ça, l'empreinte, le probe de salive. Et nous ramener ici au centre de détention, je ne sais pas pourquoi. Que pas voler rien de la déchetterie, pas... Que dites que pas de carte de séjour. Moi, je sais que l'Union européenne, c'est... Roumanie, c'est une Union européenne, et c'est pas obligé pour carte de séjour.
La police me dit que moi, il n'y a pas de carte de séjour, et c'est pas obligé, c'est une Union européenne. C'est normal, moi, c'est ici... 9 mois, c'est pas, comment ça s'appelle, 2 mois, 3 semaines. C'est 9 mois ici. Et c'est pas possible pour partir moi en Roumanie. Tous les papiers, moi, c'est à casse, tous les polices connaissent, tout. Pourquoi c'est comme ça?
Pour moi, c'est bizarre que... Pourquoi je suis ici, je sais pas.
isolement, aucune info, galère au niveau de la langue. J'ai un peu halluciné qu'ils avaient aucune info. La Roumanie, elle est bien en Union européenne depuis plusieurs années déjà. Les Roumains sont donc autorisés à circuler en fait dans l'Europe. Et circuler, ça veut dire 3 mois de présence maxi. Au-delà, il faut un titre de séjour, une carte de séjour temporaire qui peut être pour raison de travail, de vie privée et familiale, etc. Et donc, ils n'en ont pas, ils se retrouvent au CRA, secteur C.
Et dites-moi, c'est possible pour rester ici beaucoup de temps ?
Au centre de rétention, le maximum, c'est 45 jours.
Oh, c'est... Donc, ça peut-être, justement, oui. Je ne sais pas si c'est le maximum. Ici, dans notre département, c'est moi et mon mari. Que la troisième personne que j'étais avec nous, c'est l'autre département D. Je suis à la C.
Dites-moi, d'exemple, mon cousin, oui, c'est ici, là-bas, le secteur D. Et c'est pas possible, lui, pour rester ici, le secteur 3, avec moi. Lui, pas parler bien français, pas parler rien, pas connaître rien.
Leur cousin est en secteur D, un secteur non mixte homme, donc ils ne le voient pas, puisque eux, ils sont en secteur C, un secteur pour les familles. Quand on dit famille, c'est pour les enfants avec leurs parents.
C'est très bien. Comme tous les papiers, tous les rendez-vous à l'hôpital. Je suis enceinte en 5 mois.
Tu es enceinte?
Oui. J'étais à l'infirmerie, ils disent qu'ils attendaient pour venir au médic pour faire une consulte mieux. Que regardez comment va la grossesse. Que là-bas, c'est infirmière, de madame qui est infirmière. Comme ça, regardez la tension, quel âge, si je consomme tout alcool comme ça. Il dit attendez un peu pour venir le docteur.
Normal, moi, tous les papiers, moi, c'est ici en France. Tous les bagages, moi, c'est ici en France. Ma voiture, c'est ici en France. Tout. Comment on fait pour récupérer, chef? Vous avez tous les papiers, moi, ici en France. Ma femme, c'est santé. Tous les papiers de grossesse, c'est ici. Pour les sociales, pour les CAF. Moi, tous les papiers, moi, c'est ici, là, pour l'emploi, les services, tout l'intérim, tout, moi, la caisse de chambre, entre le travail.
Mais les juges et les flics s'en foutent des attaches. Ce qui compte, c'est appliquer les lois racistes et la politique du gouvernement. Et donc, bah justement, les lois, elles changent à ce niveau aussi avec la création d'une nouvelle interdiction du territoire, votée en mars dernier et appliquée depuis novembre. Une interdiction du territoire spécialement réservée aux personnes de l'Union européenne qui se sont fait gauler sans carte de séjour. On aurait pu penser qu'avec l'obsession islamophobe du gouvernement, les ressortissants de l'Est de l'Europe et d'ailleurs en Europe seraient un peu peinards, et en fait c'est visiblement pas le cas avec cette nouvelle interdiction du territoire. Et par contre, les principaux concernés, quoi, les principaux intéressés, eux n'y comprennent rien, et vu la complexité du système, c'est pas vraiment étonnant.
Pour l'association CIMA dit que c'est fermé aujourd'hui, et ici, à un papier, c'est écrit en espagnol, il dit que pour recours au tribunal administratif, llamar à l'interphone la policia de officine administrativa. Oh, et comment on fait, monsieur, que je ne sais pas, comment pas parler bien, y compris bien français, il dit que 48 heures pour faire le recours, et... C'est pas la date, mais là-bas, la OFI, c'est écrit comme ça, autre papier, il s'est dit qu'aujourd'hui, la CIMAD s'est fermée.
Et en plus, mardi dernier, la CIMAD était apparemment fermée au centre de rétention de Cornebarieux. Bon, faudrait vraiment qu'on se mette à penser à les cramer, leur tôle, non ?
Avem milioane de idei, mai vrem mituri să susțină pașii grei, mai vrem rime de la niște derbedei, mai vrem, mai vrem, mai vrem, mai vrem. Avem milioane de idei, mai vrem mituri să susțină pașii grei, mai vrem rime de la niște derbedei, mai vrem, mai vrem, mai vrem. Oamenii de cultură din România,
blamează pe cei ce reprezintă periferia. Se simt amenințați, dar sunt deconectați. Școala multă însă creează neadaptați. Textele de stradă, subcultură, ok. Care e alternativa? Oare Andreea Andrei? Raluca de la CNA ar vrea. Dacă s-ar putea să facem altceva, poate Racova sau Colibaș. Urăsc din suflet oamenii la pum și lași. Din București până în Craiova și mai departe. Băieții țin aproape, știi frate, pentru frate. Că lumea simte atunci când o arzi niște obiect. Îi doare în plânul de lanțul tău sau de mașini. Indiferent de categoria socială, suntem o mare familie, la fel ca prima oară.
Avem milioane de idei.
Mai vrem
Vitor să susțină pașii grei.
Mai vrem
rime de la niște derbedei.
Mai vrem, mai vrem.
Yeah, 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 du rap roumain hein, pour habiller donc l'émission l'émission de Clem. Merci beaucoup, ça s'appelait Pour un bout de papier, cette émission que tu faisais à Canal Sud, une mensuelle comme tu nous disais, donc dont on peut consulter les archives sur le site internet de Canal Sud. Merci beaucoup.
Ciao Troupeau, chaque lundi de 18h à 19h sur Radio Centrafrique.
Et donc on change de sujet, mais pas complètement, on reste à l'étranger avec Gilles qui vient d'arriver dans nos studios.
Bonjour Gilles.
Bonjour.
Bienvenue et merci d'être ici. Alors tu nous proposes ce soir de revenir sur un élément important de l'actualité internationale qui se déroule loin à l'est, alors cap au pays du soleil levant, comme on dit en Birmanie, hein, pour nous en dire un peu plus sur cette région. Alors comment ça se fait que...
Bon, donc l'Asie du Sud-Est, un petit peu, on peut situer le Myanmar ou la Birmanie, c'est le même pays. La Birmanie, c'est le nom un peu historique et la France et le Canada continuent de l'appeler la Birmanie, alors que la Suisse et l'ONU l'appellent le Myanmar. Le Myanmar, c'est un nom qui a été donné par les généraux, parce qu'il faut vous dire que c'est un gouvernement militaire et très autoritaire là-bas. Depuis, il y a plusieurs dictatures qui se sont succédées depuis les années 60. Ça a été un véritable bordel. Et c'est un pays qui s'est refermé sur lui-même complètement. Et du fait de l'activité de ses généraux au fur et à mesure, il y a eu un embargo des États-Unis, de tout le monde. Donc ça les a incités à s'enfermer encore plus.
Si bien que même pour un touriste lambda, ça a été compliqué de visiter le Myanmar.
Compliqué. À un moment donné, on ne pouvait pas y passer plus de 3 jours, ou ouais. C'était passé à une semaine dans les années 70 ou un truc comme ça, et ça s'est rouvert il y a quelques années, là, ces derniers temps, je sais pas, 4-5 ans, quoi, pas plus.
Hein. Alors, toi, tu y as passé du temps par petite période, mais fréquemment, tu me disais, pour renouveler ton visa, simplement.
Oui, moi, je ne peux pas dire, je ne connais pas la Birmanie, hein, je ne veux pas m'avancer là-dessus, je n'ai pas visité, je n'ai pas fait le pays, comme certains le disent, mais disons que je fais des séjours assez fréquent et assez long depuis 7 ans dans le nord de la Thaïlande et très proche de la frontière birmane. Hein, donc j'ai plein d'échos parce qu'il y a pas mal de réfugiés birmans en Thaïlande. Et puis il se trouve que ma voisine est birmane, donc on a pu en causer un petit peu, quoi. Donc j'ai une autre vision de ce qu'on peut nous asséner en permanence ici. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu révolté tous ces derniers jours. J'ai vu beaucoup de reportages sur les Rohingyas et c'est vrai que ce qui se passe là-bas est terrible.
Hein. Alors peut-être on commence par ça en fait. Qu'est-ce qui se passe là-bas en ce moment ?
Beaucoup ont parlé de génocide, de nettoyage ethnique, etc. Ouais. Alors il faut faire gaffe avec les mots, mais c'est terrible. C'est en gros 800 000 personnes qui ont quitté le pays pour se réfugier au Bangladesh. Beaucoup sont morts en route.
Même plus que ça, je crois qu'on parle de millions. Et enfin... Arte, par exemple, disait il y a quelques jours que c'était quasiment l'ensemble en fait, de la communauté Rohingya qui s'était...
Apparemment, les Rohingyas seraient 1,5 million, mais c'est difficile à les quantifier pour la bonne raison qu'ils n'ont pas de papier, qu'ils n'ont aucun droit, qu'ils sont apatrides et que, selon la loi birmane, ils n'existent pas. Quoi.
Tu veux dire que ça a toujours été, ça ?
Ça date depuis très très longtemps. Alors, c'est un héritage de la colonisation anglaise. Merci les Britanniques qui nous ont laissé ça. C'était les supplétifs de l'armée anglaise à l'époque, c'est-à-dire un peu les harkis du coin, quoi. Et donc, c'est assez logique que les Birmans les aiment pas trop.
Qui sont bouddhistes.
Alors, la grande majorité, à 80-90%, les Birmans sont bouddhistes. Cette minorité Rohingya, ils sont musulmans sunnites. C'est bon à préciser, c'est-à-dire qu'assez orthodoxes, on va dire, hein, pour pas dire plus, proches des salafistes et autres. Donc, il y a aussi cette peur qu'il y a en Asie du Sud-Est. Il y a des minorités musulmanes un petit peu partout, dans le sud de la Thaïlande aussi. Il y a des endroits où on peut pas aller, des endroits fermés carrément, hein, où il est impossible d'y mettre les pieds. Et ils ont tous peur, vu ce qui se passe aussi en Europe, qu'il y ait la contagion là-bas, quoi.
D'accord, c'est aussi quand même lié à un climat d'ambiance...
générale, mondiale, on va dire, un petit peu, quoi.
Et donc, ces populations Rohingyas, d'après toi, elles ont migré plus... Enfin, elles ont été rejetées plus par leur... pour leurs convictions idéologiques, enfin religieuses, ou par ce régime qui avait instauré ça comme
c'est un ensemble. C'est un ensemble. Donc, ils n'ont jamais été bien vus, hein, depuis le début de la démocratie, enfin pas de la démocratie, mais à la fin de la colonisation anglaise, hein, donc ça remonte à 47-48, par là. Depuis cette époque-là, il y a des problèmes, et régulièrement, les Birmans, et pas que les Rohingyas, mettent à la porte des minorités, les Karen par exemple, qui sont les planteurs d'opium, etc., ont été aussi mis à la porte régulièrement et chassés. Il y a un climat qui est difficile à comprendre parce que les ethnies ont énormément d'importance. Il y a toujours une ethnie majoritaire qui veut se débarrasser des gens qui les gênent, quoi. Il faut savoir que les Rohingyas n'ont pas le droit de faire de commerce, ils n'ont pas le droit même de faire plusieurs enfants, enfin c'est terrible, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est
déjà pas très bien loti.
C'est assez inimaginable, et ça date depuis les années 50-60. Ça s'est empiré à partir de 62, où il y a eu un dictateur militaire fou, un type qui a été formé au Japon pendant la guerre, parce qu'il faut savoir que les Japonais ont envahi la Birmanie pendant la dernière guerre mondiale, se sont frités avec les Anglais là-bas, et ont pris des militaires, des généraux, ils les ont formés au Japon pour les renvoyer après, et c'est ces gens-là qui ont fait souche un petit peu, ces militaires fous, complètement fachos, quoi, on peut le dire, hein. Vraiment, c'est du fascisme, ils sont pour une élite, etc., quoi.
D'accord, et eux, c'est... D'après toi, enfin, aujourd'hui, c'est eux qui sont à l'origine de cette...
Alors, c'est complexe, parce que ça s'est un petit peu toujours fait, mais c'était un des problèmes. C'était, comme le disent certains textes, c'était une épine dans le pied de la Birmanie. Et ils ne savaient pas quoi en faire, quoi. Ça les enquiquinait, cette histoire-là. Puis il se trouve que les Rohingyas font plein d'enfants, quoi. Donc ils prolifèrent, et ça leur fout les jetons, plus le climat. Donc, quand il y a eu... Alors, pour revenir à notre époque... quand il y a eu donc l'histoire d'Aung San Suu Kyi qui a été donc elle a gagné les élections en 90, les élections législatives, avec une majorité écrasante.
Voilà, et... du coup on peut faire une toute petite parenthèse sur le système, donc pour devenir premier ministre, puisque donc il n'y a pas de président, c'est un roi, ou comment ça se passe?
Alors si, il y a un président, mais elle ne pouvait pas devenir présidente, parce que comme elle a eu des enfants avec un Anglais, ça ne rentrait pas dans la Constitution, quoi. Ils se sont débrouillés pour essayer de l'écarter à chaque fois. Il faut savoir que c'est la fille du général Aung San qui a été l'un des promoteurs de la liberté, de la libération de la Birmanie vis-à-vis des Anglais, quoi.
D'accord.
Donc c'était un mythe, et il a été assassiné par ces généraux fous formés au Japon.
D'accord.
Mais je dis fous parce que il dirigeait le pays non seulement d'une main de fer et employant toutes les pires méthodes, mais en plus s'appuyant sur l'astrologie, la numérologie, des choses comme ça, au point de faire par exemple changer les billets parce que un astrologue leur avait dit à ce général Newin, je crois, le numéro 9 lui était favorable. Donc, il fallait que ça soit des multiples de 9. Et enfin, des trucs de malades, quoi. Vraiment...
D'accord. Donc, malgré ce contexte-là, Aung San Suu Kyi, elle arrive à accéder au pouvoir.
Alors, elle arrive à accéder au pouvoir. Les militaires ne supportent pas ce truc-là. Ils n'y croyaient pas. Parce qu'ils avaient une main de fer sur le pays qui est très riche, il faut le savoir. Il y a des ressources minières incroyables. Il y a beaucoup de pierres précieuses.
Des rubis,
il y a du gaz. Il y a du pétrole. Il y a du bois. Il y a énormément de choses. Ils se sont remplis les poches et ils se faisaient payer directement à l'étranger, hein. l'argent n'arrivait même pas en Birmanie, avec des firmes telles que Total, par exemple, qui se sont bien, et British Petroleum, qui se sont bien sucrés au passage. Donc, les généraux ils étaient un peu sur le cul de se dire, merde, cette fille frêle, toute frêle, elle est épaisse comme un cure-dent, la dame, là. Hein. Elle a, à l'heure actuelle, elle a 72 ans, hein, donc elle a tenu le coup. Mais ils n'y croyaient pas, sauf que le peuple entier était derrière elle. Donc, ils se sont débrouillés pour la discréditer, puis ils l'ont mis carrément à signer à résidence pendant 18 ans, quand même. Ils lui ont refusé de sortir au moment où son mari est mort, son mari anglais est mort, il avait le cancer. Ils ont refusé qu'elle sorte, quoi, quand même. Et elle a deux fils avec ce... Et elle était assignée à résidence. Bref, c'est une prison un peu dorée, parce que c'était quand même pas les barreaux et les rats.
Oui, elle était
chez elle, mais elle pouvait pas en sortir, quoi. Voilà.
Il n'y a pas que chez nous que ça prend des drôles de formes.
Non. Mais c'est très subtil à l'asiatique, encore une fois. C'est des choses... donc, ils ont essayé de la neutraliser, entre guillemets. Pendant longtemps, on a cru qu'ils allaient l'empoisonner, etc. Parce qu'ils n'ont pas hésité à tuer des proches. Par exemple, récemment, ils ont fait tuer, mais très très récemment, là, il y a un an, je crois, ils ont fait tuer en plein aéroport son avocat, qui était de confession musulmane, qui aurait pu arranger les vélos, justement. Eh bien non, ils l'ont buté, et tout de suite après, ils ont mis les images de l'assassinat sur Facebook, avec la tête de l'assassin, etc., et en glorifiant ce truc-là, quoi. Ouais. Donc, voilà.
Ils pouvaient quand même pas se permettre de faire d'Aung San Suu Kyi un martyr.
Non, mais en même temps, ils lui font peur. Et puis, ils éliminent les gens autour d'elle. Avant, il y avait un consul qui représentait 4 pays, dont le Danemark, la Suède, la Suisse, etc. Un type qui était reconnu. Eh bien, ils se sont débrouillés pour lui mettre une sale histoire sur le dos. Ils l'ont mis en tôle, ils l'ont fait crever en tôle. Donc, et ils ont refusé qu'il y ait une autopsie internationale ou quoi que ce soit. Donc, c'était une histoire pourrie. Donc, ils ont toujours essayé de lui faire peur, de frapper autour d'elle. Ce qui explique le contexte, c'est que tout le monde en France se dit, elle fait rien, Aung San Suu Kyi, c'est une honte, etc. Mais elle est entre le marteau et l'enclume, elle bouge, ça tombe dans tous les sens, quoi.
Voilà, c'était là où on voulait en venir. Mais donc, Aung San Suu Kyi, à ce moment-là, elle accède quand même au pouvoir législatif. Et depuis qu'elle est Premier ministre, alors qu'est-ce qu'on sait du Myanmar ?
Voilà, alors c'est son chauffeur, homme de sécurité, etc., qu'elle est arrivée à faire mettre au président.
D'accord.
Et elle est Premier ministre, donc. Mais
à première vue, on se dit plutôt avec les pleins pouvoirs, si elle a réussi à placer un président.
Justement, ils lui ont laissé. Alors c'est toujours la subtilité, entre guillemets, asiatique, c'est qu'ils lui donnent tous les trucs emmerdants, hein, toutes les patates chaudes, mais ils ont gardé pour eux, les généraux tiennent toujours les frontières, ils tiennent le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire toute la police et l'armée. Donc, elle n'a aucun pouvoir sur tout ça.
Des généraux, eux, qui ont plutôt un visage beaucoup plus radical, beaucoup plus extrême.
Bien sûr. Et ils en profitent pour régler ce problème des Rohingyas en lui mettant ça sur le dos et en la discréditant aux yeux du monde entier. C'est-à-dire, ils retournent le truc... Hein, il retourne le truc, elle s'est maintenue, elle était intouchable parce que des gens très connus du showbiz, du monde entier l'ont soutenue et en ont fait une icône. Et donc là, ils essayent de la discréditer en retournant le sujet, quoi. Et tout le monde tombe dans le panneau.
Le Bouddha se situe souvent au-delà du bien et du mal. Ces paroles devraient nous permettre de limiter les mécaniques du mal. Cultivons un amour sans limite envers tous les êtres.
On écoute la bande-annonce du documentaire de Barbet Schroeder qui s'appelle W, le Vénérable. Et donc Barbet Schroeder, qui est donc un type qui fait des films, c'est un Suisse, qui est de confession bouddhiste, il faut le préciser, depuis ses 20 ans, mais qui a été complètement choqué. Il connaît très très bien le pays, très bien le sujet, et il est allé voir justement l'histoire de ce vénérable W, et il a fait un docu assez extraordinaire, malheureusement, qui n'a peut-être pas eu... il l'a présenté à Cannes, mais on ne l'a pas beaucoup vu.
Qu'on aurait voulu.
On l'a pas beaucoup vu sur les écrans. C'est l'histoire de ce moine bouddhiste qui est un vrai fasciste et qui a mis de l'huile sur le feu pour combattre les Rohingyas, pour les discréditer et foutre le feu aux mosquées, quoi, carrément. Donc, c'est assez incroyable qu'un moine bouddhiste puisse complètement basculer dans la violence alors que c'est l'inverse du bouddhisme, quoi.
De même, l'innocent, absorbant goutte par goutte, finit par se remplir du mal.
Voilà, on vient d'entendre la bande-annonce du film Le Vénérable W, qui est donc un film qui a été présenté à Cannes l'année dernière. Tu as choisi cet extrait de...
C'est sorti le 7 juin exactement, en partenariat avec Courrier International.
Et France Inter aussi. J'ai
oui, oui, France Inter, Télérama, enfin, ils ont eu pas mal de soutien de presse quand même, mais on ne l'a pas beaucoup vu sur les écrans et sûrement pas à Sainte-Afrique ou à Millau.
Donc on a entendu un peu de Birman parler dans cette bande-annonce, c'était aussi pour ça que ce qui a aiguillé ton choix, mais il y avait aussi beaucoup la notion d'extrémisme et de... Voilà, on a des idées reçues, des choses et des croyances ou des mécanismes des choses qui se passent parfois très loin, comme c'est le cas quand on parle de cette crise, et c'est pas forcément ce qui reflète le mieux la réalité. Donc je voudrais qu'on revienne un peu au sujet de l'exode, on va dire, des Rohingyas au Bangladesh, et sur ces raisons et les mécanismes qu'on peut y comprendre.
Alors, comme je l'ai dit juste avant, c'est pour les généraux, c'est le problème et la patate chaude. Et rien, c'était relativement facile et machiavélique d'imputer ça à Aung San Suu Kyi et de lui filer la patate chaude en disant « débrouille-toi avec ce problème-là », alors que eux ont des milices, il y a les militaires, mais il y a aussi des milices qui sont complètement incontrôlées, qui sont de véritables sauvages et qui vont dans les villages brûler, violer, etc., pour
qui sont naturellement anti-Rohingya ou
musulmans. Ah oui,
musulmans,
oui, et viscéralement, le moine qu'on entendait là, qui est un affreux, hein, c'est vraiment le mal personnifié.
Le fasciste.
Voilà, ce type-là aurait été, à l'âge de 12 ans, comment dirais-je, impressionné et traumatisé par le viol d'une fille dans son village par des musulmans. C'est comme ça qu'il explique sa prise de conscience.
Qu'il a déraillé.
Voilà.
Et alors, Pour en revenir, permets-moi, Gilles, de te demander, donc, par exemple, je veux dire, ce qui a été choquant, frappant, qu'on a pu voir dans les médias, c'est la force de frappe aérienne, par exemple, de l'armée militaire birmane. On s'attend donc logiquement à ce que ce soit... Les hauts ordres militaires sont bien... discuter et puis même...
Ah oui, mais c'est pas elle qui décide, quoi. Hein.
Donc, tu es en train de nous dire qu'il y a un haut fonctionnaire de l'État qui s'est chargé d'éradiquer les Rohingyas et qu'en fait, Aung San Suu Kyi, elle est
spectateur. Ce sont les généraux qui règlent ce problème, qui essayent de le régler depuis des années et qui profitent de la situation et pour essayer de mettre ça sur le dos et de se débarrasser d'Aung San Suu Kyi.
D'accord, on pourrait aller jusqu'à dire que le fait d'éradiquer, enfin de génocider les Rohingyas au Myanmar aujourd'hui, ça peut être dans le but de discréditer la personne d'Aung San Suu Kyi avec son prix Nobel de la paix.
Entre autres. Mais ils font d'une pierre trois coups. Quoi. Ils règlent ce problème-là, ils font peur aux autres, parce qu'il faut dire qu'il y a 120 ethnies au moins en Birmanie, donc les autres minorités, inutile de vous dire, qu'ils sont... Ils se tiennent à carreau et ça ne fait que conforter ce pouvoir militaire. Alors, on peut faire des querelles de chiffres, hein. Effectivement, c'est difficile parce que il n'y a pas de mission, ils n'acceptent pas qu'il y ait des missions de l'ONU ou des choses qui aillent sur le terrain. Donc on voit ce qui arrive dans les camps après avoir traversé le fleuve. Après, et il y a encore des choses encore plus compliquées, c'est que dans la jungle, il y a des bandits qui sont affiliés à ces milices, etc., et qui les bloquent et qui essayent d'obtenir des, du fric.
Et qui les dépouillent encore un petit peu.
Qui les dépouillent au passage, quoi. Un petit peu ce qui se passe pour, en Afrique. Voilà,
c'est tous les systèmes ensuite de migration.
Il y a des passeurs, il y a toujours... On retrouve, c'est pour ça que c'est révélateur aussi, on retrouve exactement les mêmes processus que dans les migrations qui viennent d'Afrique, quoi, hein, avec les mêmes profiteurs, les mêmes gens. Et ce qui est terrible, c'est que ce sont des vieillards, des enfants, des femmes qui en font les frais, quoi. C'est ça. C'est, parce que la plupart des hommes ont été, en général, tués au départ. Hein. Les 500 000 ou 800 000, c'est, même le Vatican est intervenu là-dessus en disant qu'il y avait au moins 800 000 Rohingyas qui étaient passés au Bangladesh. Puis alors, il y a un problème, c'est que le Bangladesh est un des pays les plus pauvres au monde aussi, et qu'ils n'ont pas, entre guillemets, les moyens de les accueillir, et que ça leur fait un problème eux aussi, quoi, forcément. Hein. Personne n'en veut, quoi, des Rohingyas. Ce sont des apatrides. Ils n'existent pas, ils n'ont pas de papier, ils n'ont rien, quoi.
Oui, mais enfin, ils vivent quand même à un moment donné quelque part, et enfin, ça pose problème, ou on s'arrange pour que ça pose problème. Mais c'est vrai que la question n'est pas aussi tranchée que ça, pour revenir sur la position d'Aung San Suu Kyi, qui, si on essaye de regarder un petit peu sur Internet la vie des gens qui seraient plus proches de ce territoire-là, en fait, on tombe hyper rapidement sur des manifestations racistes de citoyens birmans bouddhistes qui en fait disent on veut pas des Rohingyas, ils font pas avancer la société, ça plombe le...
Bien sûr.
Et on se retrouve avec Aung San Suu Kyi qui fait des espèces de déclarations pour expliquer que...
Maladroite, il faut bien le dire.
Très maladroite.
Très maladroite.
Se sent pas bien, on le voit, où elle dit quand même qu'elle va essayer de réaccueillir la plupart des Rohingyas et de légiférer autour de cette région, et en même temps c'est entrecoupé de plans de manifestants qui sont explicitement contre. Du coup, on se demande un peu quelle place, si elle représente ni le pouvoir militaire de son pays, ni finalement la voie démocratique
de son peuple. Elle est coincée. Elle a un peuple derrière elle qui croit, qui en a fait un mythe. Hein. C'est une sainte là-bas. Hein, ouais. Sa photo est partout. Le petit peuple est derrière elle, ça c'est clair. Mais ce petit peuple, il est verrouillé depuis des années et des années par la dictature militaire, donc il n'y a pas de pouvoir. Ce qui est intéressant dans le document de Schröder, c'est qu'il y a ce pouvoir religieux qui est très très important là-bas, et qui est bien entendu noyauté par les militaires, hein, c'est une des forces, et les gens sont complètement intoxiqués, ils ne savent pas la vérité. Ouais. Ils ne connaissent pas. Nous, on a une vision extérieure, etc. Mais sur place, ils n'ont pas. Ils ne savent pas. Même elle, au départ, elle n'avait pas été sur place. Et elle faisait en fonction de ce qu'on lui racontait, qui était complètement faux et totalement erroné. Donc, elle a fait des déclarations très maladroites. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est une femme, comment dire, elle n'est pas rusée, quoi. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude, justement,
des rouages politiques,
de la communication, de tout ça. Elle est complètement en dehors de tout ça.
Et aujourd'hui, elle se retrouve complètement instrumentalisée aussi par le fait qu'elle est glorifiée derrière son
Nobel
de la paix.
Les militaires, les religieux, et puis son pays, l'idée qu'elle en a.
Ouais, et puis enfin, l'image aussi internationalement publique de je pense, tous les détenteurs, comme on dit, des gens qui ont reçu un prix Nobel de la paix. On va dire qu'on a une espèce d'exemplarité.
Il y a beaucoup à dire. J'enjoins tous les auditeurs à aller faire un petit tour sur Internet en tapant prix Nobel de la paix, et on s'aperçoit que... Non, il y a eu beaucoup de charlots, il y a eu de tout, quoi. Des gens qui les ont refusés.
Il y a eu notamment la communauté européenne, il y a 2-3 ans, qui a reçu le prix Nobel de la paix.
Bon. Donc c'est pareil, puis il faut voir d'où ça vient, le Nobel aussi, quoi. Au départ, c'est déjà...
Alors, Nobel en lui-même, tu disais tout à l'heure.
Ben oui, c'était un vendeur de canons et qui a découvert la dynamite, et puis pire, un explosif encore pire que la dynamite quelques années après, et qui en fait a favorisé énormément l'armement de l'Allemagne avant la guerre de 14, quoi. Hein. Donc bon, il a créé cette fondation un peu peut-être pour se disculper, se racheter. Toujours est-il qu'au départ, bon, c'est pas joli, et tout au long, il y a eu des gens très bien, mais il y a de tout. Puis c'est comme toutes les décorations, hein, on le voit chez nous, hein, les décorations ne correspondent pas forcément à des choses bien propres, et on les file des fois un petit peu à n'importe qui, et c'est vrai qu'on attend, la population attend, donc c'est d'autant plus facile de la discréditer aussi, de dire, ouais. Ah, vous voyez, elle devrait être exemplaire.
Ben voilà, avec un empilement de tout ça, on se retrouve avec vraiment une manipulation de cette personne au milieu.
C'est un jeu de go, quoi, bon. c'est un truc très, à la fois très subtil et très machiavélique, et je trouve un peu dommage qu'on tape sur le dos de cette femme qui a consacré sa vie à son pays et qui est pas du tout c'est pas Machiavel, elle, pas du tout, quoi. C'est quelqu'un de plutôt la bonne sœur laïque, alors bon, enfin je sais pas si le terme est...
Non, mais enfin, voilà.
c'est quelqu'un qui aime son pays et qui s'est dévoué corps et âme à son pays et qui est coincé dans une situation qui est très difficile. Et je trouve que la communauté mondiale ferait bien de pas se précipiter à lui sauter dessus, parce que c'est exactement ce que les généraux veulent.
Ouais.
Tout le monde tombe dans le piège, quelque part, quoi. Donc, voilà. Et que les grandes firmes, on ferait mieux de regarder les British Petroleum, Total, et tous les marchands de diamants, de pierres précieuses, etc., qui se font gras sur cette histoire, quoi. Hein. Je pense
qui peut-être a des intérêts, voilà.
Tout à fait.
La pagaille continue.
Je peux pas m'empêcher de cracher un petit peu sur notre bon docteur Kouchner, qui a été payé très cher pour aller faire à l'époque, une mission pour dire que tout allait bien en Birmanie et qu'il n'y avait pas de travail obligatoire, pas de travail forcé, alors qu'il y avait des images qui sortaient d'esclavage pur et simple à cette époque-là, quoi.
Et les méthodes n'ont pas beaucoup changé.
Ben non, il y a beaucoup de gens qui
sur
profitent.
Sur ce sujet, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre des positionnements peut-être démocratiques ou politiques, donc ce qui est le même, ou est-ce que qu'on peut regarder le truc d'un autre œil, enfin voilà.
Regarder d'un autre œil, ne peut-être pas se précipiter à avoir des avis très tranchés. En Asie, c'est impossible d'avoir un avis tranché, parce que chez nous non plus, mais enfin là-bas c'est encore plus clair, parce que dès qu'on affirme quelque chose, on croit qu'on a compris, juste à côté de soi, on a exactement l'opposé de ce qu'on vient d'affirmer, quoi. Donc attention, tout est... les dés sont un peu pipés et les cartes sont truquées. Et voilà, il y a des associations humanitaires qui ont dit bon, bah, ma foi, on peut pas faire grand chose, prier.
Ah oui.
Voilà, c'est quand même terrible de penser qu'il y a un nettoyage ethnique et
qu'on n'est même pas capable de pointer les bonnes personnes responsables.
On ne peut pas pointer les bonnes personnes et il n'y a pas énormément de solutions. Alors, on va finir avec Jane Birkin, je crois.
Pourquoi Jane Birkin?
Parce qu'elle s'est engagée très fort aux côtés d'Aung San Suu Kyi à l'époque et je pense qu'elle a contribué à cette belle image du départ, quoi.
Les chants du mal dormant, tu n'aimes pas, moi j'adore. Et quand bien même tu me passerais sur le corps, je ne me sens plus de faire aucun effort. C'est le théorème de tous les anticorps, un problème de rejet. Ou d'accord, l'autre est un mot, les chants de mal dorant. Tu n'aimes pas, moi j'adore. Thank you.
Et quand bien même de Jane Birkin, alors c'est un extrait d'un live qui s'appelle Arabesque qu'on vient d'entendre. On est encore avec Gilles Margeron dans Ciao Troupeau sur Radio Sainte-Afrique. Gilles, qu'est-ce qu'on pourrait dire, voilà, en conclusion un peu de ce sujet où c'est difficile d'y voir bien clair.
Donner quelques références peut-être pour avoir plus d'infos. On parlait d'un film, on parlait d'un livre.
On reparle donc de ce documentaire de Barbet Schroeder qui s'appelle...
Le Vénérable W.
Absolument, donc on peut aller sur internet, il y a des extraits et on peut même, je pense, le télécharger sur internet. Hein. Enfin bon, à voir, je suis pas un spécialiste. sinon, il y a un bon bouquin qui est un roman qui se lit vachement bien et qui est le prix Interallié 2007, alors ça date pas d'aujourd'hui, hein. C'est Christophe Ono Di Bio, qui est le bouquin s'appelle Birman, et j'avais beaucoup aimé ce livre, et c'était déjà en 2007, il y avait déjà donc beaucoup de choses dans ce roman, et de l'ambiance de la Birmanie actuelle, des ONG, des gens qui luttent sur place, parce qu'il ne faut pas croire, il y a aussi des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, etc. Quoi.
Et alors, puis on peut rappeler aussi...
roman aussi, tant qu'on y est, moi il y en a un de Joseph Kessel aussi,
oui, et bien sûr.
La Vallée des Rubis.
La Vallée des Rubis, oui.
Et on voulait aussi complémenter...
Concernant la géopolitique plutôt, voilà, il y a deux épisodes du Dessous des Cartes qui avaient parlé de la Birmanie, et qui étaient plutôt bien faits, et en 20 minutes, 2 fois 10 minutes, on a un aperçu assez complet, assez exhaustif quand même de la situation géopolitique en Birmanie.
Tout au moins pour le côté historique et les frontières qui bougent, c'est toujours beaucoup plus facile avec un support en image. Donc ça se retrouve sur internet maintenant, plutôt de manière plutôt libre.
Sur YouTube, il y a moyen de le trouver, je pense.
Gratter, si vous voulez en savoir un peu plus. Hein, il faut le chercher soi-même, l'information, parce que les gens râlent très souvent.
Le petit côté du vieux journaliste qui ressort.
Oui, il faut aller la chercher, l'info, et on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses. Moi, j'ai trouvé, j'ai appris plein de trucs aussi sur Internet, et donc n'hésitez pas à taper Birmanie, Myanmar, Aung San Suu Kyi, Rohingya.
Et préférez les sources libres comme Absolument. Wikipédia ou des choses comme ça pour avoir des informations plus, on va pas dire objectives, parce que ce serait un petit peu...
Non, l'objectivité n'existant pas tout à fait, non, mais c'est, j'ai pris beaucoup de choses dans Wikipédia. Oui,
merci beaucoup Gilles d'être venu, l'antenne est ouverte à toi et à tout le monde et tout un chacun qui veut venir en parler ici.
Ciao Troupeau, meute média contre masse média.
Allez, on va se quitter Ciao Troupeau là-dessus. C'était un chant trouvé dans une compilation cassette trouvée en Italie ces derniers jours.
Ça va devenir une coutume, Ciao Troupeau, ça.
Ah, bah, attention, bien sûr, évidemment. Ça s'appelle Figli dell'Officina et donc c'est une cassette trouvée dans un squat de Milan il y a quelques jours. On voulait vous en faire partager un peu. On le remet un petit peu parce que c'est pas mal quand même. Et on va finir Ciao Troupeau sur ces quelques notes italiennes. Vous nous retrouvez chaque semaine à 18h sur Radio Sainte-Afrique. Voilà, c'est chaque lundi, mais c'est en direct une fois sur deux et en rediffusion la deuxième fois, puisque voilà, c'est bimensuel, comme on dit.
Mathématique.
Vous nous retrouvez également sur le site internet www.radiosaintafrique.com en podcast avec toutes les anciennes émissions depuis le début. Il y en a des milliers maintenant. Vous retrouvez également tous les autres programmes de Radio Sainte-Af. Ce soir, c'est soirée jazz sur Radio Sainte-Af avec des petites lectures à 22h. Antoine, tu voulais rajouter quelque chose?
Juste dire merci à Greg pour le phoneur, merci Gilles et merci à toi à la technique.
Et bien sûr, et vous et donc restez branchés aussi Bastamag pour l'enquête de Greg sur le centre de rétention administrative de Cornebarieux.
On vous tiendra au courant.
Vous retrouvez dans les podcasts et sur la page de Ciao Troupeau de RadioSaintAfrique.com toutes les infos avec les petits liens, etc. On mettra des petits liens très certainement vers les films, les livres. vers les vidéos et d'autres sources comme ça, comme les témoignages de rétention, etc., etc. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Saint-Taf. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, troupeau !
Ciao, ciao !
L'émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
Ciao, ciao, le troupeau, je me bats, je m'en vais broutiller autre part. Ciao, ciao, le troupeau, je me bats, je m'en vais broutiller autre part.
Il est l'heure de quitter le troupeau et de rejoindre la meute.
J'ai jamais squatté la routine et le manque de vie qui se tasse. Sac à dos à arrache, allez hop, je me casse. Et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur. Qui t'a galéré ici, je m'en vais galérer ailleurs.
Ciao troupeau, chaque lundi à 18h sur Radio Saint-Afrique.
Ciao troupeau.
Now open your eyes and switch off this recording. And prepare yourself for the next section on Program 2.